Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Nous sommes à l'école militaire à Paris où se déroulait cette semaine la première édition du Paris Defense and Strategy Forum, le forum de Paris pour la défense et la stratégie. Nous allons parler de la défense européenne dans le contexte actuel qui veut qu'après 3 décennies de dividendes de la paix, les Européens recommencent à parler comme un acteur stratégique et réapprennent non sans mal la grammaire des rapports de force. On sait que ce qui se joue en Ukraine est essentiel pour la sécurité européenne, mais cela ne va pas encore de soi pour plusieurs pays, nous allons l'évoquer. L'Europe pourtant se trouve à la manœuvre car les États-Unis en année électorale semblent incapables ou ne veulent tout simplement pas ou plus jouer leur rôle traditionnel et peinent à poursuivre leur soutien à Kiev faute de consensus au Congrès. La guerre d'Ukraine est venue rappeler les lacunes de la défense européenne. Il faut à l'Union européenne une nouvelle stratégie pour l'industrie de défense. Cela passe par une remise à niveau des capacités de production réduites après 30 ans de sous-investissement et de donner les moyens aux entreprises européennes de rivaliser avec leurs concurrentes américaines. Le constat est là. Depuis 2022, début de la guerre d'Ukraine, 75% des achats d'équipements militaires sont allés à des firmes non européennes et 68% à des entreprises américaines. Alors l'Europe peut-elle retrouver une dynamique de puissance? C'est la question que je vais poser à nos invités, Arantxa González, doyenne de l'École des affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Marie Guénaud, ancien président de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, professeur à Columbia et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin Philippe Perchoc, chef de l'antenne IRSEM Europe à Bruxelles et professeur au Collège d'Europe à Bruges. Bonjour.
Bonjour.
Les Européens ont du mal à prendre conscience de la nouvelle donne géopolitique, ni réaliser qu'il n'y a aucun scénario dans lequel une défaite de l'Ukraine pourrait être une bonne nouvelle pour l'Europe. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les Européens comprennent qu'ils étaient littéralement sans défense face aux menaces extérieures. La construction d'une Europe de la défense devient un impératif face à la menace existentielle de la Russie. Comment chacun voyez-vous les choses ? Jean-Marie Guénaud.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence. Il y a péril en la demeure, comme a dit le président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Aujourd'hui, si nous ne mettons pas les bouchées doubles, nous risquons de nous trouver dans un an avec une OTAN dont les États-Unis ne sortiraient pas nécessairement, mais ne voudraient plus vraiment garantir. Et l'OTAN sans les États-Unis, à ce moment-là, c'est un cadre vide. Donc je crois qu'il est très important que les Européens s'organisent entre eux en utilisant le cadre de l'OTAN, parce que s'ils ne l'utilisent pas, il y a beaucoup d'Européens qui ne seront pas d'accord. En utilisant le cadre de l'OTAN, il faut qu'ils s'organisent. Il faut aussi qu'ils trouvent le moyen d'accrocher la Grande-Bretagne au wagon européen sur les questions de défense, parce qu'une Europe de la défense sans la Grande-Bretagne, c'est une Europe très affaiblie.
La Grande-Bretagne qui, comme chacun sait, a quitté l'Union européenne il y a quelques années à travers de ce qu'on a appelé le Brexit. Votre point de vue, Arantxa González ?
Non, je crois qu'il faut clarifier avec nos citoyens les points de départ de cette conversation. C'est vrai que le monde a changé et que l'Union européenne, si elle veut rester ses projets de paix qui combinent d'une manière exceptionnelle l'économie, la solidarité et la démocratie, c'est ça l'Europe, il faut qu'elle se donne les moyens de les défendre. Donc il ne s'agit pas de transformer l'Union européenne dans un projet de guerre. Il s'agit de se doter des instruments pour pouvoir défendre cette spécificité qui est la nôtre. Cette manière de voir le monde qui est le nôtre. Dans un monde qui change, nous devons, si nous voulons avoir de l'influence dans le monde, changer aussi notre posture en matière de sécurité et de défense. Cela, comme nous sommes un espace démocratique, passe par la nécessité de parler de ces sujets avec nos citoyens, de leur convaincre de pourquoi il faut investir plus en sécurité et en défense, et de faire bouger les peuples européens avec cette nécessité que nous avons de mieux nous protéger, ce qui veut dire investir plus en sécurité et en défense. Donc, parlons aussi des citoyens. n'oublions pas que nous sommes une démocratie. Il faut convaincre nos citoyens aussi de cette nécessité de sécurité en Europe.
Philippe Parchoc.
Je pense que ce qui est paradoxal, c'est que vous avez parlé du Brexit, le pays qui sort. L'Ukraine est maintenant candidate pour rentrer dans l'Union européenne. Donc il y a des pays qui sortent, il y a des pays qui rentrent. Mais au final, ce qu'on veut défendre, c'est l'Europe. Sans parler des structures, la défense, c'est la défense de l'Europe dont on doit parler aujourd'hui. Et en défendant l'Ukraine, on défend l'Europe, un pays européen qui prend les armes pour se défendre lui-même, mais aussi ses valeurs qui sont nos valeurs. Et je pense que quand on parle en ces termes-là, je suis d'accord avec vous, Madame la Doyenne, aux citoyens, ils sont capables de le comprendre sans les perdre, en fait, parce que le reste, c'est de la technique. Si votre maison est en feu, ce que vous voulez, c'est qu'un service public, peu importe son nom, vienne vous aider à l'éteindre. Que ça soit le SAMU, les pompiers, la police, peu vous importe, en fait. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est des moyens pour éteindre le feu, pour s'assurer qu'on n'aura pas de nouveau départ de feu. Parce que ce continent européen, il a des valeurs, il a une cohésion, il a besoin de se défendre. Et c'est ça qui est devant nous et qui est là aujourd'hui, maintenant, et pour lequel il y a urgence.
Alors, précisément, le départ de feu, il est là, pas besoin d'attendre un nouveau. Il y a celui-ci à gérer. Jean-Marie Guénot, on sent qu'il y a une sorte de décalage. Alors, oui, Arantxa González soulignait la nécessité d'impliquer l'opinion publique, c'est évident. Mais là, dans le cas concret de la guerre d'Ukraine, il y a évidemment une certaine urgence. Comment l'idée d'une Europe de la défense a, d'après vous, évolué ces deux dernières années?
Je crois qu'il y a aujourd'hui une bien plus grande prise de conscience de l'urgence qu'il y a deux ans. Maintenant, les structures sont en retard. Parce que là, on entre dans tous les débats bureaucratiques sur la manière de s'organiser, sur toute la cuisine bureaucratique, et ça n'est pas simple. On entre aussi dans les rivalités industrielles. Chaque pays défend son industrie. Et ça aussi, c'est un facteur de complication dans la construction de la défense européenne. Je pense néanmoins qu'on peut aujourd'hui avancer, mais il faut le faire de façon très concrète. On voit la question, par exemple, des munitions, de l'approvisionnement de l'Ukraine en munitions, en missiles. Bon, il y a aujourd'hui des capacités européennes insuffisantes. On s'était fixé un objectif, on ne l'a pas tenu. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas des chaînes de fabrication suffisantes. Et là, il y a une responsabilité des gouvernements, parce que les industriels renvoient la balle en disant « c'est très bien, vous voulez qu'on produise plus vite, mais pour produire plus vite, il faut qu'on crée de nouvelles chaînes de fabrication. Ça, c'est un investissement. Est-ce que vous nous garantissez qu'on va rentabiliser notre investissement ? Donc, il faut des plans pluriannuels. Et à ce moment-là, on déroule le fil. Ça pose la question des financements. Et là, sur les financements, les Européens, malheureusement, ne sont pas encore d'accord. L'Allemagne, au nom de l'orthodoxie financière, ne veut pas qu'on fasse d'emprunt européen pour la défense. Donc, on se heurte à des difficultés très pratiques, très concrètes. Mais je crois que la prise de conscience de l'urgence est là. Les moyens ne suivent pas encore à la rapidité avec laquelle ils devraient suivre.
Alors effectivement, pour ce qui est des obstacles ou en tout cas des difficultés, il y a ce que vient de souligner Jean-Marie Guénot, Arantxa González, c'est la question, le manque de coopération et le manque de coordination. Donc coopération et coordination. Jean-Marie Guénot a évoqué le cas de l'Allemagne. Quelle est la position de l'Espagne ?
Je crois que si on regarde un peu l'histoire, nous sommes encore hantés par notre échec aux années 50, quand on a essayé de construire pas simplement une communauté économique, mais aussi une communauté de la défense. Et d'ailleurs, la France en sait quelque chose parce que c'est la France qui l'a inventé et c'est la France qui l'a tué aux années 50. Et donc, on pâtit aujourd'hui exactement de cette difficulté à imaginer comment on fait plus d'intégration européenne dans les domaines de la défense. C'est, comme disait Jean-Marie, la fragmentation d'un côté et les financements de l'autre côté. Alors je crois qu'il faut être lucide, de la même manière qu'on a fait un marché unique pour les produits industriels, pour les voitures, pour les textiles, pour les chaussettes, il faut inventer un marché peut-être d'abord commun, après on verra bien si on peut le rendre unique pour la défense. Parce que c'est pas très logique d'avoir des énormes capacités de production. Espagne a énormément de capacités de production dans les navals, dans les aériens, pour l'armée des terres, de même que la France, de même que l'Italie, de même que l'Allemagne, mais que l'Union européenne soit l'endroit au monde où on importe plus des matériels de défense. Alors ça, il y a quelque chose qui n'école pas. Alors, nous avons une opportunité qui est donner à nos industries une capacité de devenir plus compétitives, de produire plus, de nous donner plus de sécurité d'approvisionnement. Mais pour cela, il faut faire des efforts de consolidation de l'industrie européenne de la défense, des financements à l'échelle européenne et d'un marché qui soit plus intégré, un marché quelque part. Commençons par un marché commun et transformons après, avec un peu de temps, cela un marché unique.
Philippe Parchoc.
Oui, je pense qu'en fait, ça nécessite aussi, vous parlez de marché commun, de marché unique, ça nécessite aussi un changement de mentalité. Parce que je pense que, disons, l'idée libérale du marché commun et du marché unique, c'était le libre-échange. Or là, on est dans un secteur de l'économie dans lequel le libre-échange n'existe pas. Parce que traditionnellement, on est sur des marchés qui sont captifs, qui sont nationaux. Pendant des années, on leur a commandé très peu, donc pour qu'ils continuent à exister, on les a poussés à exporter à l'extérieur de l'Union européenne. Et maintenant, il faut qu'ils recalibrent leur production vers le marché européen. Mais quelque part, il faut un peu de dirigisme aussi, parce qu'il faut que les États membres ou la Commission européenne puissent dire voilà les capacités dont on a besoin, voilà le temps dans lequel on en a besoin. Et donc, organisez-vous entre vous, ce qui en fait donne une logique de cartel. Et l'Union européenne, elle a été construite aussi pour tuer les cartels. Donc ça nécessite un peu un changement de logique, un changement d'organisation, d'avoir ce qu'on appelle une politique industrielle européenne de commande, en fait. Et on n'est peut-être pas encore tout à fait équipé pour cela.
Politique industrielle de commande, Jean-Marie Guénaud, c'est l'une des bonnes décisions qui serait à prendre ?
Absolument. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on renforce l'Agence européenne d'armement, qu'elle devient une structure beaucoup plus puissante qu'elle n'est aujourd'hui. La question qui se pose tout de suite, c'est la relation avec les États-Unis, parce que les Américains sont tout à fait d'accord pour le marché le plus ouvert possible. Et justement, la spécificité du marché de la défense, c'est qu'il faut quand même protéger les industries européennes. Autrement, tous nos efforts d'intégration feront qu'on achètera plus aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il ne faille pas acheter certains équipements aux États-Unis, mais si on veut avoir une masse critique qui permette les dépenses en recherche, développement et tout ça, il faut pouvoir avoir un volume de commandes suffisant avec les industries européennes.
Alors justement, quel est, puisqu'on vient de mentionner les États-Unis, quelle serait, d'après vous, cette autre relation qu'il faudrait que l'on développe, que l'Europe développe avec les États-Unis ? Arantxa González.
Bon, c'est pas que nous voulons développer une autre relation avec les États-Unis, c'est que les États-Unis, soyons lucides, se désengagent petit à petit du reste du monde. C'était clairement le cas pendant la présidence de Donald Trump. C'est vrai qu'avec Biden, ça a été un peu plus aimable vis-à-vis de l'Union européenne. Mais il y a une pulsion de fond aux États-Unis qui est des tendances à s'isoler un peu plus du reste du monde. Donc, si c'est ça la tendance qu'on observe chez les États-Unis, et laissons de côté ce qui va se passer lors de l'élection au mois de novembre, mais on serait sage, à mon avis, si on s'est préparé aussi au résultat de cette élection, pour ne nous trouver dans une situation dans laquelle le choix du peuple européen au mois de juin est mis entre les mains de quelques centaines d'électeurs aux États-Unis lors de l'élection au mois de novembre. Donc, préparons-nous, soyons sages, préparons-nous du côté l'industrie, de la capacité à produire. Préparons-nous aussi à peut-être être plus responsables à l'OTAN, qui est l'alliance des défenses que nous avons, où les principaux actionnaires, c'est les États-Unis. Préparons-nous à être peut-être un peu plus responsables, surtout après qu'il y a plus d'Européens qui sont rentrés à l'OTAN.
Être plus responsable, Arantxa González, qu'est-ce que ça veut dire à vos yeux ?
Être un peu plus responsable, ça veut dire être prêt, pas simplement à dépenser plus, mais à se doter des capacités pour assurer une défense intégrale, qui est ce que fait l'OTAN, sachant qu'aux manettes de cette défense intégrale aujourd'hui, qui couvre tous les aspects, les déploiements des troupes, les ravitaillements, les avions, l'espace, pour que l'audience puisse comprendre aussi de quoi on parle. Cette intégration des différents éléments de la défense aujourd'hui sont entre les mains, sont à l'OTAN et sont plutôt entre les mains des États-Unis. Alors, nous, petit à petit, on ne va pas remplacer ça du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'il faut être plus capable à prendre plus de responsabilités de cette intégration aussi et les mettre petit à petit, mettre plus de mains européens.
Jean-Marie Guénaud, je sens que vous avez envie d'ajouter quelque chose.
Non, d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Arantxa González. Je crois qu'il y a une tendance de fond aux États-Unis qu'il ne faut pas ignorer, que ce soit Biden ou que ce soit Trump. Avec Trump, elle sera extraordinairement accélérée. Mais plus de trois quarts de siècle après la fin de la guerre mondiale, la majorité des Américains pensent que les Européens doivent prendre la responsabilité, la plus grande charge pour leur défense. Et après tout, c'est assez raisonnable de leur part. De penser cela. Alors Trump le fait à sa manière impétueuse et irresponsable, mais c'est une tendance de fond. La deuxième chose, c'est que la guerre d'Ukraine, de ce point de vue, est un test en grandeur réelle. On voit très bien un certain nombre de capacités où les Européens n'ont simplement pas aujourd'hui ce qu'il faut. Toute l'acquisition des cibles, qui est un aspect important de la manière dont les Ukrainiens ont réussi à résister à l'offensive russe, le renseignement américain semble être très important pour cela. Les Européens ont des satellites d'observation. La France en a. Mais est-ce que c'est suffisant ? Non. On a besoin de beaucoup plus dans un certain nombre de domaines. On pourrait les détailler, mais il est clair qu'il y a des trous dans la raquette aujourd'hui, si je puis dire, pour ce qui est de la défense de l'Europe.
Philippe Parchoc.
Oui, je pense que c'est une question aussi de prévision. Hein. Vous parliez des industries tous les deux en disant que les industries, elles ont besoin d'investir. Pour ça, elles ont besoin d'avoir de la visibilité. Donc, il y a des problèmes qu'il faut régler là, tout de suite, maintenant. Par exemple, aider les Ukrainiens. Je pense que les Tchèques ont eu raison de dire les munitions, on les a pas. Donc, on va les trouver quelque part dans le monde. On va les acheter là, tout de suite, maintenant, parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Je pense que sur le très court terme, de toute façon, l'intrication de la relation transatlantique fait que, comme vous l'expliquez bien, Madame la Doyenne, on ne peut pas s'extraire, en fait. Hein, et c'est peut-être même pas souhaitable, en fait, parce qu'on partage aussi beaucoup des mêmes valeurs, tout simplement. Mais il faut devenir responsable dans le sens où il faut être capable de savoir de quoi nous aurions besoin demain pour nous défendre, puisque c'est vrai, la défense de l'Europe, elle repose avant tout sur les Européens. Le premier pays européen qui se ferait attaquer, il aurait avant toute chose besoin de se défendre par lui-même. L'Atlantique reste un grand océan, et ça paraît raisonnable, en fait. Mais donc, il y a du très court terme, il y a du moyen terme, et il y a du long terme, et je pense que ces dernières années, depuis une bonne dizaine d'années, l'Union européenne, elle est beaucoup en mode de management de crise, c'est-à-dire une crise chasse une autre. À Bruxelles, on entend parler de la polycrise ou la permacrise, c'est tout le temps la crise. Mais pour être responsable, pour assurer notre défense, en fait, il faut sortir de ce mode-là et rentrer dans un mode prévisionnel. C'est ça qui est fondamental.
Mode prévisionnel, et pour cela, il faut une stratégie. La question qui me vient, c'est est-ce que l'Europe a une stratégie, Jean-Marie Guénaud ?
Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, l'Europe réagit aux crises, mais l'Europe s'est faite dans les crises, donc on peut espérer que cette crise va accélérer le développement d'une vraie stratégie. Mais on n'en est pas là.
Arantxa González, quelques mots sur...
Non, il y a des bouts et des morceaux. Et c'est vrai que nous devons composer avec un court terme qui est dans l'urgence immédiate, parce que la guerre en Ukraine, c'est notre urgence immédiate. Et tout rêve de construire quelque chose à moyen-long terme dépend aussi de notre capacité à répondre dans les courts termes. Mais vous savez, un peu, les Américains nous disaient il faut être capable de marcher et de mâcher du chewing-gum. Et nous, il faut faire un peu la même chose. Il faut faire les courts termes, mais d'ores et déjà commencer à travailler dans la planification du moyen et long terme. Et pour cela, la récente communication de la Commission européenne à ces sujets, c'est très intéressant.
On parlera précisément dans la seconde partie de l'émission. On vous retrouve, Arantxa González, avec Jean-Marie Guénaud et Philippe Perchoc après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
politique depuis l'école militaire où se déroulait cette semaine la première édition du Forum de Paris pour la défense et la stratégie. Nous parlons de défense européenne avec nos invités. Arantxa Gonzalez, doyenne de l'école des affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre des affaires étrangères de l'Espagne. Jean-Marie Guénaud, ancien président de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, professeur à Columbia et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Et Philippe Perchoc, chef de l'antenne IRSEM Europe à Bruxelles et professeur au Collège d'Europe à Bruges. Nous avons terminé la première partie de cette émission sur la question de savoir si l'Europe avait une véritable stratégie. On voit que ça bouge au niveau de la Commission européenne. Il était temps, mais Jean-Marie Guénaud abordait dans la première partie de l'émission l'Agence européenne d'armement. C'est vrai que c'est une agence dont on n'entend pas parler dans le public. Donc au niveau de la Commission européenne, ça bouge sur les questions de défense. Est-ce que ce qu'elle propose, la Commission européenne, vous paraît suffisant ? Josep Borrell, le représentant européen pour les affaires étrangères, parle de la nécessité d'une industrie européenne forte, résiliente et compétitive. Est-ce que ce qu'offre la Commission européenne permettra d'atteindre cet objectif ? Philippe Perchoc.
Donc, la Commission européenne a dévoilé la semaine dernière un certain nombre de projets. Il fallait le faire parce qu'on est dans l'urgence, mais entre-temps, on aura les élections européennes. Donc ça risque quand même de ralentir un petit peu les délais de négociation, et notamment le Parlement va se quitter quelque part au mois d'avril et on ne les reverra pas avant le mois de juillet. Ils recommenceront à travailler probablement après l'été. Ce qui est très important dans ce que la Commission a mis sur la table, c'est qu'elle propose des moyens nouveaux, même s'ils sont encore modestes. Souvent, au niveau européen, on voit que ce qui est fondamental, c'est de casser un tabou, de proposer quelque chose de nouveau, de façon même modeste, même avec un peu d'argent, parce que quand l'urgence va arriver, alors là, on pourra remplir le système. Et c'est ce qui avait été fait, par exemple, avec la Facilité européenne pour la paix, qui au départ était une grande innovation parce qu'il s'agissait d'acheter du matériel militaire pour des pays tiers. Et ça, c'était vraiment un changement total de manière de fonctionner pour l'Europe. Et c'est vrai que ça avait été plutôt imaginé pour des opérations de maintien de la paix en Afrique ou pour des partenaires africains. Et quand la guerre en Ukraine s'est poursuivie et s'est aggravée en 2022, puisque je rappelle qu'elle a commencé en 2014, eh bien cette Facilité européenne pour la paix, elle paraissait comme un instrument que tout à coup on pouvait abonder et utiliser là tout de suite maintenant. Donc je crois que ce qui est fondamental, c'est ça, avec des objectifs qui ont été mis en place, notamment, et vous l'expliquiez dans l'introduction, relatifs à la qualité et la quantité des coopérations entre partenaires européens, et aussi dans l'objectif de volume d'achat en Europe. On parle de 30 à 40% d'ici 15 ans, et je pense que c'est vraiment important. Donc le fait que la Commission pense que les États membres sont capables de se mettre d'accord là-dessus, puisque ce n'est pas la Commission qui décide à la fin, mais elle ne propose pas non plus des choses qui sont totalement infaisables, ça montre qu'il y a une volonté d'avancer, et même si ça peut paraître modeste, je pense que c'est extrêmement important.
Arantxa Gonzalez, vous souhaitez ajouter quelque chose, votre commentaire ?
Non, je crois que c'est très important, ces gestes que la Commission a fait, de mettre sur la table une ébauche des, disons, projets, des visions pour la sécurité et la défense en Europe. En réalité, elle le fait que pour une partie importante, mais qui n'est pas toute la sécurité et la défense, qui est l'armement, qui est là où il y a une compétence communautaire. Mais ça a le mérite de mettre sur la table la discussion politique sur la sécurité et la défense. Et ça, vis-à-vis des élections et à la veille des élections européennes, je trouve que c'est important. Les électeurs européens nous disent à plus de 90% qu'ils veulent, ils soutiennent une politique européenne en matière de sécurité et de la défense. Mais on n'a pas encore expliqué en quoi ça va consister, comment on va le faire, et surtout comment on va les financer. Donc d'abord, c'est bien de ce point de vue-là. C'est bien aussi d'agiter un peu les fourmiers parce qu'il y a encore une fois, des compétences qui sont communautaires, mais il y a d'autres compétences qui sont des États membres. Et donc, il faut petit à petit avoir cette discussion de comment, pour être plus efficace, pour être plus compétitif et pour mieux protéger finalement les Européens, quelle est l'articulation aussi des compétences à avoir. Alors, il y a une partie que je trouve encore décevante, qui est la discussion sur les financements. On sait très bien, les chiffres qui sont mis sur la table, c'est 1,5 milliard d'euros. On sait très bien que ça, ce n'est même pas le début d'une discussion en matière de financement. Je crois qu'il faut être beaucoup plus forte à pousser l'idée de refaire pour la sécurité et la défense ce qu'on a fait pour relancer l'économie européenne après la Covid, qui est emprunter en commun pour investir en commun. C'est un secteur, la sécurité et la défense, qui est un secteur très spécifique. Il n'y a pas un marché libre en réalité. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Il n'y a que les États qui achètent. Il n'y a que des entreprises dans les États qui produisent. Donc, c'est un marché pour lequel il faut avoir une forme d'investissement qui soit aussi plus adaptée aux spécificités de ces marchés. Je crois que le faire en commun nous donnerait la capacité d'être plus efficace à un moment où, c'est vrai, les trésoreries européennes ne vont pas très bien. Donc, faisons l'investissement ensemble.
Jean-Marie Guénaud.
La rivalité entre la Commission européenne et les États sur les questions de défense, c'est une vieille histoire dans l'Union européenne qui tient à ce que rappelait tout à l'heure Arantxa Gonzalez sur l'échec de la Communauté européenne de défense dans les années 50. On a fait l'Europe en contournant les sujets qui fâchent, et notamment la question de la défense. Et je trouve que le fait même qu'aujourd'hui la Commission soit au centre de discussion sur la défense, c'est presque révolutionnaire dans la manière de penser des institutions européennes. Alors il faut continuer dans cette direction, mais comme le disait Arantxa Gonzalez, maintenant il ne faut pas le faire à dose homéopathique. Et donc il faut changer d'ordre de grandeur, et ça c'est la question des financements. C'est la question aussi, je dirais, d'un marché unique beaucoup plus large, parce qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de technologies militaires, on voit bien qu'il y a une domination des États-Unis. Parce qu'en réalité, sur beaucoup de domaines, il n'y a pas de marché unique de la technologie en Europe. Il n'y a pas de marché unique des capitaux. Et donc, on est surpris de voir que les entreprises américaines dominent les hautes technologies. Mais c'est assez facile à expliquer. Elles puisent dans un marché des capitaux qui est sans commune mesure avec le marché fragmenté qui existe en Europe. Et chaque pays a ses normes, chaque pays a ses spécificités. Et donc une entreprise européenne, quand elle investit dans des composants, qui sont une des clés de la modernisation de la défense, elle n'investit pas pour le marché européen. Elle a toutes sortes de contraintes. Donc c'est là qu'on voit que l'imbrication entre le rôle de la Commission, donc c'est le terrain de compétence, les questions de marché, et les États et la politique et le haut représentant avec cet effort pour joindre la tradition diplomatique et les traditions diplomatiques nationales avec l'esprit européen incarné par la Commission, on voit que si on veut progresser, c'est absolument essentiel aujourd'hui.
Philippe Parchoc.
Pour donner une idée des volumes, quand il a fallu, donc ce qui a été un bond révolutionnaire après la Covid, emprunter de l'argent sur les marchés internationaux parce que les États membres étaient exsangues, on a emprunté 1 700 milliards d'euros qu'on a redistribué aux États membres sous forme de prêts et sous forme de subventions. Plus de 200 milliards que pour l'Italie. Et là, Thierry Breton, il propose 100 milliards. Tout le monde saute au plafond en disant « Mais 100 milliards, mais comment ça 100 milliards ?» Mais 100 milliards, c'est rien. On a mis 1 700 milliards pour se défendre d'un virus. On peut peut-être mettre plus que 100 milliards pour défendre globalement la sécurité des Européens et de leur mode de vie. Donc, on en vient en fait à une question qui est une question philosophique. C'est-à-dire qu'en empruntant ensemble, pour la Covid, nous avons, quelque part, uni les Européens dans une dette commune. Ils sont encore plus solidaires qu'ils n'ont jamais été solidaires dans le passé avec la monnaie commune, etc. Il y a des États membres qui disent « Oui, mais c'était exceptionnel. » Donc, en fait, les Néerlandais, les Allemands disent « Non, on ne peut pas le faire une deuxième fois. » Parce que, comme on entend à Bruxelles, la première fois, c'est une révolution. La deuxième fois, c'est une tradition. Donc, certains États membres disent « Non, 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 c'était un one-off. C'était une seule fois. » Et maintenant, on voit que d'autres États membres disent « Non, en fait, on l'a fait une fois, ça veut dire qu'on peut le refaire. » Et on voit aussi des coalitions qui sont totalement nouvelles. D'habitude, c'était les pays dits du sud de l'Europe qui étaient pour l'emprunt commun. Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, je vois une proposition entre l'Estonie, la Pologne et la France de faire un nouvel emprunt commun. Donc c'est toute la géographie de l'Europe qui est en train de se redessiner avec cet enjeu fondamental qui est celui du volume dont on a besoin pour se défendre.
Je crois que la Suède et le Danemark qui étaient vent debout sur ces idées, comme ils sentent la Russie toute proche, ont aussi évolué.
Mais je crois que nous devons abandonner cette idée que l'emprunt commun, c'est une question idéologique. Ce n'est pas une question idéologique. C'est une question éminemment économique. C'est moins cher d'emprunter en commun. C'est moins cher d'investir en commun. Donc, c'est plus efficace. Donc, et en plus, dans un moment où on sent les risques très, très proches, je crois que ça serait irresponsable de réagir de manière idéologique. Il faut réagir de manière intelligente, combinant la capacité économique, l'efficacité, la compétitivité pour assurer la sécurité à nos citoyens.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous évoquiez le Covid et ses emprunts communs. On en revient à ce que vous disiez à Antia Gonzalez dans la première partie de l'émission, l'importance de la question des opinions publiques. Et donc, sur la question ukrainienne, c'est important, c'est un élément fondamental, finalement. Alors, moi, depuis le début de cette émission, j'entends... alors, il y a les élections européennes qui vont venir. Après ça, il y a les élections américaines de novembre prochain. Côté ukrainien, il y a une vraie urgence. Je veux dire, voilà, est-ce qu'on peut vraiment attendre tout ça? Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il faut que l'Europe passe en économie de guerre? Jean-Marie Guénaud.
D'une certaine manière, oui. Je pense qu'il y a aujourd'hui en Europe un sentiment un peu illusoire et dangereux que ces problèmes ne sont pas nos problèmes. Alors, il faut trouver un équilibre. Parce qu'il ne faut pas non plus paniquer nos citoyens. La guerre, c'est ce que subissent les Ukrainiens tous les jours. Être bombardés, le risque de mort. Nous sommes bien tranquilles dans nos pays. Il peut y avoir des attaques cyber. Ces attaques cyber peuvent s'aggraver. Mais nous sommes en paix pour le moment dans nos sociétés. Mais je pense qu'il faut faire comprendre aux citoyens européens que s'ils s'imaginent que la sécurité de l'Europe elle est simplement assurée par l'exemplarité de l'Europe, en quelque sorte, ça, c'est le passé. Et donc, la meilleure manière de se protéger du risque d'une extension de la guerre qui toucherait directement leur territoire, c'est de se mobiliser aujourd'hui. Et donc, avoir, dans certains domaines, une économie de guerre. C'est-à-dire les industriels, pour doubler leur production de tel ou tel matériel, il faut qu'ils investissent. Cet investissement, ils ne vont pas le faire s'il n'y a pas de commandes. Ces commandes, elles demandent de l'argent. Cet argent, on ne peut pas doubler les budgets de défense aujourd'hui des pays européens. Donc, c'est là qu'on rejoint la question de l'emprunt. Il faut emprunter, mais il faut une part d'emprunt et une part de budgets nationaux. Ça sera les deux. Et prétendre le contraire, c'est faux. Donc oui, il faut une certaine pédagogie politique pour faire comprendre que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne aujourd'hui doivent faire à la défense une place qui ne lui faisait pas il y a quelques années. Et il y a encore de grands décalages dans l'effort de défense des différents pays européens.
Philippe Parchoc.
Si économie de guerre, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais prenons en fait des exemples historiques. La plupart des pays de l'Europe de l'Ouest, pendant la guerre froide, avait des budgets de défense entre 4 et 6%. On a vécu ces 30 dernières années avec des budgets de défense globalement aux alentours de 2%. Donc la guerre froide, c'était une guerre froide. C'est-à-dire que les Européens de l'Ouest, même s'il y avait la menace de guerre, ne vivaient pas une économie de guerre. En Europe, on ne vivait pas mal, j'imagine, dans les années 80. Donc c'est une question en fait de choix, une question de priorité. Bien sûr, les 2% qu'on n'a pas dépensés dans la défense, on les a dépensés dans les services sociaux et dans d'autres choses. C'est des choix difficiles, c'est des choix qui doivent être validés par les citoyens. Mais doubler un budget de défense dans une trajectoire économique de 10 ans, ça paraît pas totalement infaisable parce qu'avant, on le faisait. Donc, on appelait pas ça économie de guerre. C'est juste en fait un réagencement des priorités en fonction d'une situation qui a globalement changé pour les Européens. On est revenu dans une situation ancienne et on y faisait face et on devrait demain pouvoir y faire face.
Arantxa Gonzalez.
Non, l'histoire nous montre que le mot guerre en Europe, c'est un mot à utiliser avec parcimoine. Parce que la guerre, c'est quelque chose de grave, de sérieux que ce continent a vécu pendant très longtemps. Donc, mot à utiliser de manière intelligente. Quand on appelle tout la guerre, il n'y a plus la guerre. Je dirais qu'il y a la guerre autour de l'Europe. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a une agression militaire. Il y a la guerre au Moyen-Orient. Il y a la guerre. Il y a des guerres au Sahel. Toutes ces guerres ont des formes différentes, mais sont des confrontations armées, parfois entre clans, entre tribus, entre pays, à l'intérieur de pays. En Europe, nous n'avons pas la guerre, mais on est entouré des guerres. Donc, il ne s'agit pas en Europe de transformer l'Union européenne en projet de guerre. Il s'agit de pouvoir assurer les projets spécifiques qui est l'Union européenne, qui est les progrès à travers la gestion de l'interdépendance. C'est ça les projets de l'Union européenne. Économie, solidarité, démocratie, pouvoir les défendre si l'Union européenne est attaquée. Et ça, aujourd'hui, c'est plus probable qu'il ne l'était il y a 10 ans ou 20 ans. C'est pas qu'on est là, mais c'est beaucoup plus probable qu'est-ce que ne l'était. Et donc, n'importe qui vous dirait, soyez préparés au cas où cela vous arrive. Et aidez à ceux qui sont frappés autour de vous à construire cette paix.
Mais tout de même, est-ce que on peut dire autre chose aujourd'hui que d'affirmer que oui, la Russie est en guerre contre l'Ukraine, en guerre contre l'Europe?
Absolument.
Jean-Marie Guénaud.
Mais la Russie, elle est certainement... Son objectif central est de faire éclater l'Europe et de récupérer l'Ukraine comme un pays vassal. Donc la Russie n'est pas en guerre contre la France ou contre l'Allemagne. Elle est en guerre contre la possibilité d'une Europe qui se rassemble. Ça, c'est un objectif stratégique de la Russie. Et ça, il faut le comprendre, il faut l'expliquer aux citoyens. Parce que la seule manière dont l'Europe pèse dans le monde, c'est quand elle se rassemble. Quand chaque pays essaye de peser tout seul, ça ne marche pas. Donc je pense qu'il y a une pédagogie des opinions à faire. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit il y a un instant sur le fait qu'une économie de guerre, c'est une expression qui peut faire inutilement peur. Une économie de guerre, c'est quand on a des commissions qui gèrent la production pour tout. Enfin, on est loin de là et on n'a pas besoin de cela. Mais on a besoin d'une certaine mobilisation qui suppose effectivement des sacrifices. Notre paix n'est pas quelque chose qui nous est donné comme un droit d'aînesse. On a besoin de la financer, cette paix. Et la financer, ça suppose de se protéger. Et donc, je pense que c'est ce discours équilibré, nuancé, où on réveille les citoyens d'une sorte de sommeil stratégique sans que ce réveil soit un cauchemar. Il y a tout à fait la possibilité en Europe de se défendre. Il y a d'énormes capacités en Europe. Mais il faut les mobiliser et ça va supposer une certaine réorientation des priorités. Il faut le dire clairement aux citoyens. La paix n'est pas gratuite.
Alors concrètement, en termes de priorités, pour les 3 mois qui viennent, Arantxa González, quelle est, selon vous, la priorité des priorités?
À mon avis, la priorité dans les court terme, c'est soutenir l'Ukraine au maximum parce que, quelque part, les moyens long terme vont dépendre en grande partie de ce qui se passe en Ukraine. Donc, la priorité des priorités aujourd'hui, et je crois que les Européens l'ont compris, et je crois que les Européens, pas simplement l'ont compris, mais agissent financièrement et avec un soutien démocratique dans chacun de nos États membres, c'est soutenir à l'Ukraine.
Philippe Herschock, et après ça, je vous laisserai le dernier mot, Jean-Marie Guénaud.
Alors, je ne vois pas d'autres priorités que l'Ukraine. Non seulement parce qu'en défendant l'Ukraine, on laisse la Russie loin des frontières de l'Union européenne. L'Ukraine, c'est quand même le plus grand pays d'Europe en taille. Et en plus de ça, on défend aussi nos valeurs. Quelle légitimité aurait l'Europe de se défendre si elle ne défend pas le pays qui fait tout pour se transformer en un pays européen? On aurait l'air bien idiot et c'est existentiel pour nous.
Jean-Marie Guénaud, quelques secondes.
Mais Victor Hugo, dans un poème célèbre, je crois, écrit à propos de la guerre d'indépendance grecque, disait « il faut de la poudre et des balles ». C'est ce dont a besoin l'Ukraine. Alors, ce n'est plus des balles seulement, c'est des missiles. Mais la priorité des priorités, c'est d'empêcher une défaite de l'Ukraine et donc de lui fournir les moyens d'empêcher cette défaite.
Merci Jean-Marie Guénaud. Je rappelle que vous êtes ancien président de la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, professeur à Columbia et ancien secrétaire général adjoint de l'ONU. Merci aussi à vous, Arantxa González. Je rappelle que vous êtes doyenne de l'École des affaires internationales de Sciences Po, ancienne ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, et Philippe Herschock, chef de l'antenne IRSEM Europe à Bruxelles et professeur au Collège d'Europe à Bruges. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Bertrand Éclair à l'École militaire. Nathalie Laporte dans nos studios d'ici les Moulineaux. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.